et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. L'actualité de ce dimanche, Lénaïque Monnier, Bernard Poirette.
Lénaïque, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
À la une ce matin, le jour J pour les Françaises au Mondial de foot féminin.
France-Brésil, en huitième, l'affiche a de l'allure, elle en rappelle d'autres et surtout de bons souvenirs. 5000 manifestants hier à Belfort pour soutenir les salariés de General Electric, du MEDEF local au syndicat dans un grand élan de solidarité. Et puis Elvis à son Graceland, Mickey c'est Disneyland, mais Bach fait encore plus fort. Reportage à Leipzig qui accueille le plus grand festival au monde consacré aux compositeurs.
Europe 1. C'est le grand jour pour les Bleus, le match éliminatoire, le premier du mondial de football.
Huitième de finale ce soir contre le Brésil pour les joueuses de Corinne Diacre. Une affiche qui fait toujours envie, qui rappelle des souvenirs comme ces matchs mythiques des messieurs en 86 à Mexico ou bien sûr en 98. Autour des filles donc de briller face à une Seleção un peu vieillissante pour poursuivre l'aventure avec l'espoir d'un match référence, Julien Froment.
Ce France-Brésil est censé faire chavirer les cœurs des supporters, enthousiasmer le grand public en jouant sur la corde de la nostalgie, de la rivalité sportive entre les Bleus et la Seleção. Mais pour la sélectionneur Corinne Diacre, fidèle à ses principes, oubliez les strass et les paillettes, l'émotion attendra.
Non, c'est un match, c'est un huitième de finale de Coupe du Monde. Toujours pas d'excitation particulière, j'espère en avoir le plus tard possible.
On voit clair dans les yeux de Corinne Diacre, la sélectionneur fait tout son possible pour dédramatiser l'événement, éloigner une pression naissante. À l'aube d'un premier rendez-vous couperet, les joueuses, elles, sont conscientes de l'enjeu. L'attaquante Eugénie Le Sommer.
C'est un nouveau tournoi qui commence. Ce qui change, c'est que oui, tu gagnes ou tu rentres à la maison. Donc à nous de gagner pour continuer l'aventure.
Du côté du Brésil, on prend aussi la mesure de cette affiche, comme l'explique le journaliste do Globo, Rafael De Angelis.
C'est un match très important, très historique pour le Brésil, parce que c'est contre France. En France, et au huitième de finale de Coupe du Monde, 20-25 millions de personnes regardent le match. Ce n'est pas un match normal.
Les Bleus, déterminés bien dans leur tête, ont déjà un ascendant psychologique sur le Brésil, puisqu'elles n'ont jamais perdu de leur histoire face à la Seleção. Le Havre, Julien Froment, Europe 1.
France-Brésil à suivre en direct sur Europe 1 et en intégralité. Lionel Rousseau et son équipe vous attendent dès 20h.
Au coup d'envoi de cette rencontre, la température sera idéale au Havre, 23 degrés.
Bien en deçà de ce qui nous attend dès demain, puisque la canicule va s'abattre sur le pays. Le thermomètre atteindra les 40 degrés par endroit, 25 dans la nuit, du jamais vu pour un mois de juin. À Paris, la préfecture a décidé de déclencher l'alerte canicule de niveau 3 sur 4 dès aujourd'hui.
La foule hier dans les rues de Belfort en soutien aux salariés de General Electric.
5000 personnes environ pour donner de la voix aux côtés de ces salariés qui risquent de perdre leur emploi. Environ 800 personnes sont directement concernées, mais les répercussions sur toute la ville existent. L'appel avait donc été lancé par les syndicats, mais aussi par les élus et le MEDEF local, une unité qui a du bon, selon le maire LR de Belfort, Damien Mello.
C'est une fantastique mobilisation, probablement une des plus fortes de l'histoire industrielle de notre ville. Et nous allons continuer, c'est une étape importante, ça montre le soutien fort de la population aux salariés de General Electric et l'action que nous avons déclenchée avec les organisations syndicales, l'ensemble des collectivités territoriales a connu un succès exceptionnel. J'en suis très heureux et je suis très fier des Belfortins aujourd'hui qui ont vraiment répondu de façon massive à l'appel. Nous ne faisons pas de politique politicienne, ce que nous voulons c'est un avenir pour le site industriel de Belfort. J'attends du président de la République, du gouvernement, qui fasse pression sur General Electric pour que ça bouge enfin, qu'ils mettent en place le plan que nous avons demandé avec les organisations syndicales.
Damien Mello, maire de Belfort avec Théo Manval, un cortège dans lequel il y avait aussi des gilets jaunes, acte 32 de la mobilisation avec un regain de participation. 11 800 personnes a défilé en France selon le ministère de l'Intérieur contre 7 000 la semaine dernière.
La situation de General Electric mais aussi la situation politique en France et puis la sortie du livre de Nicolas Sarkozy dans quelques jours de tout cela bien sûr. Il sera forcément question au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, ça commence à 10h. Et l'invité sera Éric Woerth, le député Les Républicains de l'Oise, qui est aussi président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Restez avec nous, nous parlons du Brexit dans un court instant. Voté par les Britanniques, je vous le rappelle, il y a pile 3 ans, mais toujours pas effectif.
7h05 sur Europe 1. Retour de l'actu avec Lénaïque Monnier et Bernard Poirette.
Lénaïque, ça ne vous a pas échappé, vous vous en souvenez, c'était il y a 3 ans jour pour jour. les Britanniques votaient pour sortir de l'Union européenne.
Et on se souvient surtout que depuis 3 ans, la situation traîne après ce référendum qui avait dit oui au Brexit à près de 52%. Le pays reste divisé entre ceux qui veulent toujours partir de l'Europe, ceux qui veulent y garder un pied. Entre rassemblements, barbecues et soirées ce week-end, les deux camps ont fêté cet anniversaire, chacun à sa manière. Anaïs Cordoba.
3 ans après le référendum, le Brexit est plus que jamais au cœur de la vie de Richard. Très impliqué dans la campagne pour un second vote, il a organisé hier un rassemblement pro-européen de plus de 1000 personnes dans sa ville de Leeds.
On est soulagés d'être toujours dans l'Union européenne. C'était super de pouvoir participer aux élections européennes. On s'est senti encore un peu impliqué. Là, on essaie de toutes nos forces de survivre au sein de l'Union européenne et d'obtenir un second référendum. Mais on est dans un entre-deux. C'est assez difficile à vivre psychologiquement.
À Bristol, Paul, lui, a fêté cet anniversaire entouré d'eurosceptiques de sa ville. Mais en dehors de ce groupe, il évite de parler du Brexit, car 3 ans plus tard, le sujet divise toujours autant.
Je suis déterminé à voir le Brexit de se concrétiser. Mais tout ça est plutôt morose. J'espère que le Brexit va arriver, mais c'est rageant et décevant de voir à quel point ça a divisé les gens. Et si le Brexit arrive finalement, notre société va mettre beaucoup de temps à s'en remettre.
Le Brexit, un vecteur de pessimisme. Selon une récente étude, 72% des Britanniques pensent que leurs divisions vont s'aggraver à l'avenir. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
La riposte de Donald Trump à Téhéran, le président américain a promis cette nuit de nouvelles sanctions majeures contre l'Iran, qui de son côté, hier, a averti que la moindre attaque aurait des conséquences dévastatrices pour les intérêts américains dans la région.
Salzbourg à Mozart, Bayreuth à Wagner, mais ce matin, c'est à Leipzig que nous partons pour un festival entièrement consacré à Jean-Sébastien Bach.
La ville de Saxe accueille chaque année le plus grand festival au monde consacré aux compositeurs, plus de 150 concerts, alternant musique profane ou sacrée. Pendant 9 jours, Bach résonne partout. Reportage de Thierry Geoffretin.
Bach n'est pas sa spécialité et pour tout dire, il tâtonne un peu. Mais l'accordéoniste de rue a dû s'y mettre lui aussi, car depuis plus d'une semaine, le compositeur le plus joué à Leipzig, c'est Jean-Sébastien Bach. Bach au piano, à l'orgue aussi. Des chœurs impressionnants également, c'est toujours du Bach. Bach a vécu 27 ans à Leipzig et ce festival est tout à son honneur. 150 concerts et manifestations en tout genre cette année avec des fans venus du monde entier, comme Philippe et Élise, originaires de Lyon. Le festival Bach de Leipzig, ils y viennent depuis 21 ans.
On l'a connu quasi confidentiel, avec 2 ou 3 concerts. Maintenant, c'est devenu le festival Bach le plus important au monde.
Certainement une forme de pèlerinage. Et puis, des concerts qu'on n'a pas ailleurs. Un festival qui vous plonge pleinement dans la musique de Bach.
Thierry Geoffretin pour Europe 1.
Ah, Thierry Geoffretin, on croit qu'il est ici, mais en fait, il est là-bas, à Leipzig. Il y est allé à ce festival, Jean-Sébastien Bach, qui est l'un de ses compositeurs fétiches.
À 7h10, on s'intéresse au sport avec les Nike Money.
Et on commence par le rugby. Les moins de 20 ans, les Bleuets, sont champions du monde.
Et surtout, ils ont conservé leur titre en battant les Australiens 24 à 23. Match donc très serré et intense. C'est plutôt de bon augure dans l'optique de la Coupe du Monde 2023 chez nous. Écoutez le manager Sébastien Picroni.
Je suis vraiment privilégié de passer mon temps avec des garçons comme ça. C'est un groupe très déterminé. Et puis c'est un groupe travailleur. Donc je crois que quand on a déjà ces deux qualités-là, eh bien on peut faire des belles choses. Je crois que depuis voilà, plusieurs générations maintenant, et deux en l'occurrence, ben, les jeunes joueurs de rugby français montrent qu'ils ont du talent, qu'ils ont du potentiel. Maintenant, voilà, à nous de bien les accompagner, à eux de continuer de bien travailler. Et puis j'espère qu'il y en aura un maximum en 2023, 2027 et après.
Sébastien Picheroni, le manager des Bleuets.
Les premiers dossards pour le marathon aux Jeux Olympiques de 2024 sont distribués aujourd'hui.
Ce sera l'un des temps forts, sans nul doute, de ces Jeux Olympiques à Paris. Tout le monde peut s'inscrire au marathon. Aujourd'hui, 46 chanceux vont récupérer les premiers dossards. Des courses sont organisées un peu partout en France. Il y aura un tirage au sort parmi les vainqueurs. Explication de Tony Estanguet, qui est président du comité d'organisation de Paris 2024.
Oui, alors on a senti qu'il y avait un énorme enthousiasme du public français à vouloir courir les Jeux et le marathon de Paris 2024. Pourquoi ne pas commencer à attribuer les premiers dossards ? Eh bien, cette année, on a 46 personnes qui vont gagner leur dossard pour courir les Jeux de Paris 2024. Il ne faut pas être athlète de haut niveau du tout. Il faut être capable de courir ou de marcher 2024 mètres parce que ce n'est pas le critère de performance qui sera retenu. Au contraire, on a envie d'associer le plus grand nombre et l'objectif, c'est de venir s'amuser et de célébrer tout simplement les sports olympiques et paralympiques.
Tony Estanguet avec Corinne Boulou. Pour participer à toutes ces courses, il faut avoir au moins 15 ans.
Et je vous rappelle qu'à 8h15, tout à l'heure, donc Jean-François Martins, qui est adjoint à la mairie de Paris, en charge des Jeux Olympiques de 2024, sera l'invité de la rédaction. Par ailleurs, pour les Journées Olympiques, jusqu'à ce soir, tout le centre-ville de la capitale est quasiment neutralisé, notamment autour du secteur de la place de la Concorde. N'essayez même pas de circuler dans le coin. D'un mot, le football avec la Copa América.
Et le Brésil, qui accueille l'événement, s'est qualifié pour les quarts de finale en écrasant le Pérou cette nuit 5-0. Qualification également du Venezuela. Et puis la Formule 1, le Grand Prix de France au Castellet aujourd'hui. C'est Lewis Hamilton qui va partir en pole position. Départ de la course à 15h10.
Et qui sera le speaker de la course de Formule 1 au Castellet? Eh bien, c'est notre ami Philippe Vandel, qui du coup ne peut pas assurer son émission du soir. Il est remplacé par François Claus. Donc Philippe Vandel, dans une autre vie, est désormais speaker de course de Formule 1. On lui souhaite en tout cas une super course là-bas au Castellet, puisque c'est la renaissance de ce circuit mythique de Formule 1. Merci beaucoup, Lénaïque, et à tout à l'heure dans une heure.